pourquoi on arrive ici et pourquoi on y reste, quoi. Ou pourquoi, enfin, si on est né là, en tous les cas, pourquoi on y reste aussi, tu vois. C'est un peu ça, quoi.
Moissonner la campagne, une enquête collective et sonore. Interview.
Habité.
Dynamique collective.
Locaux et néo-ruraux.
Village.
Archives.
Territoire. Autour de la vie rurale, ses espaces et les vécus qui les habitent.
Histoire personnelle et collective.
Rencontre.
Entre soi.
Espace de l'autre.
Commun.
Intime.
Les possibles.
Tu vois, ce qui va être touché, c'est d'où tu viens. La notion de l'étranger, elle est toujours présente.
Ouais.
D'où tu viens? Est-ce que tu es d'ici? Est-ce que tu n'es pas d'ici?
Verfeil-sur-Seille, dans le Tarn-et-Garonne.
Mercredi 28 juin 2023.
Nous sommes sous la halle du village où nous avons installé un plateau radio.
Nous, c'est-à-dire les participantes d'une enquête collective et sonore autour des espaces vécus et de leur transformation.
Documenter ce qui se passe chez nous, ce qui marche ou pas, ce qui change, ce qui se répète.
Capter quelque chose des façons dont on fabrique nous-mêmes ces paysages et ces lieux qui nous façonnent en retour.
Pour ces archives du temps présent, l'association L'Ortie s'est proposée de passer du temps dans quelques villages ou quartiers, d'y mettre à disposition un peu de matériel, quelques compétences radiophoniques et ethnographiques, pour voir ce qu'il en sort.
Après 4 mois d'atelier, ce soir-là, donc, c'est la restitution publique à Verfeil-sur-Seille.
Nous sommes Émilie, Éline, Doriane, Anne et Ariella.
Nous avons discuté, préparé, enregistré et monté des entretiens pour entamer une collecte.
Pour commencer, peut-être à tisser une réflexion collective sur ce qui nous touche et qui nous meut là où nous vivons.
Sur les possibles façons d'en prendre soin.
Petite précision, le festival dont il est question dans plusieurs des capsules, c'est Décroche et la Lune, qui s'est tenu sous cette même halle et dans tout le village, impulsé par Colette Mani entre 1982 et le début des années 2000.
Accueillies comme des reines par la maison de la halle, Audrey nous a fait le plaisir d'animer le plateau et nous écoutons les capsules, extraites des entretiens, en essayant de faire réagir le public.
Bonne écoute.
Est-ce qu'on entend? Donc moi je m'appelle Audrey, ça fait un an et demi que j'habite à Verfeuil et Ariella et les filles sont venues me chercher pour participer à la restitution de ce projet radio qui s'est déroulé sur plusieurs mois et en fait ça s'appelle Moissonner la campagne parce que c'était une récolte. Je trouve que c'est un terme qui le définit bien, donc on appelle ça archives du temps présent. C'est comment on fait quand on se promène comme habitante. Les filles, ce sont des habitantes qui pratiquent le territoire. Comment on fait pour aller chercher des témoignages d'autres personnes qui nous ressemblent, qui ne nous ressemblent pas, qu'on connaît de près, de loin, parce qu'ici, on habite des espaces en commun, on se croise au magasin des producteurs, on se croise sous la halle, mais des fois, on rentre pas dans l'intimité des gens, on les connaît pas nécessairement. Donc, comment on fait pour se donner la parole et discuter ensemble? Ce qui est chouette aussi, c'est qu'avec Ariella, on a discuté beaucoup. Moi, je fais un petit peu de radio depuis quelques années. Pourquoi, en fait, c'est un médium qui nous plaît? Et on était assez d'accord toutes les deux de se dire, en fait, on est dans un moment où on est hyper surstimulé tout le temps par la vue. Déjà, en fait, comme tous les êtres humains, toutes nos perceptions sensorielles, en fait, la majorité, 80% à peu près de nos perceptions sensorielles, c'est la vue. Alors, en plus, dans un monde où il y a des médias de toutes sortes, on est un peu saturé. Et de revenir à quelque chose qui... Là, j'ai presque envie de vous dire de fermer les yeux, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'enregistrer des sons, même sur le petit dictaphone de votre téléphone, ou d'écouter un souvenir d'un lieu... Vous aviez une trace sonore et je trouve que dès qu'on ferme les yeux et qu'on entend une discussion, je sais pas, des fois avec notre grand-mère ou un souvenir de notre enfance, on ferme les yeux et on revoit hyper clairement l'endroit. Je trouve que c'est comme l'odorat en fait, le son aussi, c'est quelque chose qui est vraiment un véhicule de mémoire très fort et donc ça s'y prêtait bien pour faire des archives du temps présent. Aussi la radio, donc souvent je sais pas comment vous l'utilisez, mais c'est quelque chose qu'on écoute quand je sais pas on fait la vaisselle, dans la voiture. Donc c'est des moments hyper intimes où on est avec soi et on fait autre chose. Et là ce qu'on trouvait génial et c'est pour ça qu'on vous invite à intervenir, à discuter, c'est en fait est-ce que ça peut pas être aussi un médium qu'on utilise collectivement, qu'on fait ensemble sous la halle. Donc prendre un temps, se poser et discuter ensemble après. Donc, c'est ce qu'on vous invite un peu à faire aujourd'hui. Donc, c'était un très chouette projet. Merci, Ariella, de l'avoir porté et initié. Je vais te passer la parole si tu as envie de dire un mot sur comment vous avez travaillé ces quelques semaines. Et après, on écoutera les capsules.
Ouais, bah, pour dire deux mots, cet atelier, je l'ai proposé dans le cadre d'un projet un peu plus large qui s'appelle Archives du temps présent. Dans lequel je travaille avec un collègue à Toulouse, où on interroge vraiment les dynamiques des espaces, en fait, les territoires et comment on y habite et qu'est-ce que c'est un espace vécu, comment on perçoit les transformations et quelle prise on a sur ces transformations. C'est-à-dire qu'il y a le territoire se transforme tout le temps avec des choses qu'on subit ou des choses au contraire qui nous font du bien. Et nous-mêmes, en habitant, on transforme notre territoire. Et ça, c'était vraiment le sujet de départ qui était extrêmement large. Mais après, l'idée, c'était de se poser à des endroits et de proposer des ateliers d'enquête collective. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas que moi et mon collègue, on aille chercher des sons, mais que les habitants et les habitantes se saisissent de cette thématique-là et aillent chercher des sons et qu'on construise ensemble un récit collectif de qu'est-ce que c'est habiter par ici. Voilà. Et du coup, on a travaillé depuis le mois de mars, je crois, jusqu'à maintenant. Bon, vous allez écouter, je ne précise pas ce qu'on a fait, mais l'idée, c'est qu'on a quand même produit des sons un peu plus longs qui seront sur un blog de l'association. Je pourrais donner le nom après pour ceux que ça intéresse. Et que là, on a choisi des petits extraits qui nous semblent intéressants à vous faire écouter pour en discuter ensemble.
Donc je reprends juste sur dire sur les médiums et comment ça a été travaillé, un tout petit truc, c'est que c'est aussi quelque chose qui, pour moi, quand je l'ai écouté, ça ressemble à de l'artisanat, parce que ben, les filles, vous avez travaillé aussi avec un peu les outils dont vous disposiez, des fois des téléphones, des fois des micros, et à partir de votre connaissance propre du territoire, et ça, ça fait aussi un peu la tessiture de ce qu'on va entendre, et c'est super chouette. Donc on va commencer par les deux capsules sonores d'Émilie. Est-ce que tu as envie de nous dire pourquoi tu as choisi de travailler sur les femmes en milieu rural?
Oui, alors j'ai choisi ce thème parce que j'écoute beaucoup de podcasts et de radio, et je trouve que on entend souvent les voix de femmes, souvent diplômées, universitaires, qui habitent en ville. Et voilà, j'avais envie de questionner la place des femmes en milieu rural vue par des hommes et des femmes. Je voulais ajouter un truc par rapport au niveau du format. Donc, en fait, en parallèle à cette enquête, j'ai fait une formation de podcast. Donc, je me suis prêtée à l'exercice, d'où un peu ce format-là, qui peut être un petit peu en dehors de la radio. Mais j'ai profité de ça pour le tourner comme ça. Voilà. Bonjour, moi c'est Émilie et voici mon podcast. Je vous accompagne au fil des rencontres, questionner des sujets de société auprès des personnes vivant en milieu rural. Pour cette première saison, nous serons en compagnie de travailleuses sociales, d'artisans, d'artisanes et d'artistes. Ils et elles sont jeunes quarantenaires, hommes et femmes cis, blancs, blanches et valides. Certains ou certaines sont partis de leur milieu rural natal, puis revenus y vivre. D'autres s'y sont installés par choix. Parents ou non, en couple, célibataires ou autres, je les ai questionnés, afin de connaître leur point de vue sur les conditions des femmes en milieu rural. Tout d'abord, j'ai voulu savoir ce qu'elles pensaient de la condition des femmes en milieu rural, tout domaine confondu, qu'il soit professionnel, personnel, culturel, sur le domaine de la santé ou de la sécurité.
Ça va dépendre de quelles femmes, de quel milieu elles sont en ruralité. Dans la ruralité d'ici, il y a beaucoup d'agriculture, donc on va peut-être retrouver beaucoup de femmes qui sont issues de ce milieu ou qui ont des maris dans ce milieu ou filles d'eux. Mais c'est pas pour autant, enfin moi je le vois de manière assez large, qu'elles vont pas forcément être dans l'agriculture, ou ce qui peut aussi donner des moyens du coup financiers aux familles pour justement leur permettre à ces femmes de faire des études, d'aller dans les grandes villes et de s'émanciper.
En ce qui concerne ma profession par exemple, faut admettre que voilà, pour les femmes le matériel est pas tout le temps adapté. Bien que ce soit devenu plus accessible avec le temps, notamment le métier de peintre en bâtiment pour les femmes, avec l'allègement des charges, des sacs, etc., il y a encore un gros travail à faire pour que ce soit adapté à toutes les morphologies et voilà, et de manière équitable entre les deux sexes. Il y a énormément de travail à faire, quoi. Mais voilà, on peut être témoin quand même d'un certain machisme envers les femmes encore aujourd'hui dans les métiers du bâtiment. Sans donner de précision exacte, voilà, il y a quand même des remarques encore qui sont déplacées vis-à-vis des femmes dans le métier. La manière de dénigrer une personne parce que elle est plus faible, ou alors elle est estimée comme plus faible alors qu'elle l'est pas forcément.
Je pense que c'est toujours un peu, je sais pas trop comment c'est ici, mais c'est toujours un rapport au salaire. Je pense que forcément, il y a des métiers où il y a toujours les hommes qui gagnent toujours un peu plus, donc peut-être aussi la valeur aussi du fait qu'on a une voiture. Est-ce qu'on la partage en deux? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en campagne qui ont chacun leur voiture. Je vois pas de différence entre les hommes et les femmes. Quand je vois les femmes au volant, j'ai l'impression que c'est les mêmes voitures que les hommes. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent. Parce que pas mal d'agriculteurs autour de chez moi, c'est souvent la femme et l'homme. En tout cas, il y a aussi une maraîchère là qui s'occupe de tout ce qui est vente avec son copain. Ils font le même travail tous les deux. Ils partagent tout. De tout ce que je vois, c'est assez équivalent, en tout cas dans les binômes, en tout cas homme-femme, que j'ai pu rencontrer aussi.
Je pense que, de toute façon, être une femme, que ce soit à la ville ou à la campagne, ça reste pas forcément des conditions faciles. Après, on n'a pas les mêmes problématiques. Disons que moi, par exemple, je marche plus trop dans la rue, donc j'ai plus trop de problèmes de rue. Je suis plutôt à prendre ma voiture. Du niveau médical, je trouve qu'il manque pas mal de gynéco et de planning familiaux, notamment à Villefranche, de Rouergue. Donc je pense que la grosse difficulté, ça pourrait être ça, de devoir aller soit attendre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous, mais peut-être que c'est la même chose en ville finalement, ou devoir aller taper à Toulouse pour avoir un rendez-vous.
Dans ce premier épisode à quatre voix, on observe que l'accès aux soins et le milieu professionnel sont les domaines les plus abordés. Dans le prochain épisode, nous verrons la suite de ces témoignages. Et nous verrons aussi ce que proposent ces personnes pour faire évoluer les conditions des femmes en milieu rural. Merci pour votre écoute, parlez autour de vous de ce podcast et surtout, continuez d'être curieux et curieuses. Pour la deuxième question, j'ai voulu savoir ce que Amélie, Mathieu, Samir et Sarah feraient pour faire évoluer la condition des femmes.
Je ne sais pas si c'est la place, en tout cas c'est le regard qu'on peut porter sur les femmes. Pour moi, il a changé depuis MeToo, clairement. Je ne suis pas du tout sur... je ne suis pas les infos, etc. Mais quand même, de temps en temps, j'écoute la radio. Et je suis quand même sur les réseaux sociaux et je vois que quand même ça parle beaucoup plus de consentement, ça parle plus de ces questions-là, avec forcément des gens qui sont pas contents aussi. Donc j'ai aussi trouvé qu'il y avait au niveau masculinisme des choses qui se passaient et ça me rend pas très contente non plus. Par rapport à tout ce qui est films et séries, etc., je trouve qu'il y a des séries effectivement qui parlent des questions de genre et de sexualité, comme Sex Education par exemple, qui a été une série qui a bien marché. Mais effectivement, sur les questions de consentement, de toute façon, je pense qu'on a beaucoup de travail encore à faire et que c'est pas réglé cette histoire.
On a fait appel aussi à un électricien, finalement c'était une électricienne, donc le premier rapport avec un artisan, c'était une femme à San Salvador, qui était apparemment bien implantée. On a discuté de plein de choses avec elle kiffe son métier, et puis... elles sont bien là-dedans, des artistes, pas mal de filles qui, en tout cas, qui se battaient pour être dans l'autonomie de leurs activités. En tout cas, dans mon village, il y a celle qui tient la petite épicerie à Saint-Salvador, c'est un peu le seul truc qu'il y a. C'est une femme qui s'appelle Gégé, qui est là depuis un bon bout de temps, qui tient tout seul l'épicerie et le bar, qui a besoin de personne et qui a l'air vraiment de bien s'en sortir, d'aimer ce qu'elle fait. En tout cas, l'accompagnement du fait qu'elle va servir aussi des vieilles personnes dans le village, enfin, en tout cas, elle apporte un service assez important autour de Saint-Salvadou.
Je crois savoir qu'en effet, dans le milieu agricole, c'est quand même plus facile de s'implanter lorsqu'on est un homme. Après, c'est aussi plus facile de s'implanter lorsqu'on est d'une famille d'agriculteurs. Oui, peut-être, mais peut-être que ça existe, en fait, déjà. Je ne sais pas s'il y a des regroupements de femmes ou des regroupements de gens mixtes qui souhaitent s'installer et qui ne sont pas issus de l'agriculture. Et après, au niveau politique, après d'être représenté, de toute façon, la représentation, ça permet toujours de se sentir plus à l'aise pour faire partie d'eux, après, pour s'engager, quoi. Que les femmes, elles osent et qu'ils soient, ça permet aux autres de se sentir plus à l'aise d'y être, quoi. Ou d'y aller, en tout cas.
Après, le plus dur, le plus difficile, je pense, c'est faire changer les mentalités. C'est peut-être un peu compliqué, quoi. Mais je pense qu'il faut être pédagogue. Je pense qu'il faut expliquer les choses, en fait, aux gens, quoi, à un moment donné. Parce qu'il y a des gens qui font peut-être, probablement, des remarques déplacées, mais pas avec une mauvaise intention. Il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Enfin, voilà, j'essaie de... je pense que l'humour, faire des remarques, à ce qu'elles soient le moins agressives possible, quoi. Voilà, en disant... ouais, bon, en faisant comprendre que des fois, faut un petit peu se calmer, quoi. Mais voilà, en essayant de faire ça avec le sourire, une ambiance professionnelle peut vite être pourrie, quoi. Enfin, voilà, si, entre collègues, faut éviter de pourrir les relations, etc. Mais bon, après, je pense qu'il y a des choses, à relever, quoi, dans des cas d'urgence. Mais il n'y a pas à défendre non plus, quoi. Enfin, en général, moi, les collègues que je connais, voilà, les femmes qui travaillent, elles n'ont pas besoin qu'on les défende trop. Hein. Elles savent se défendre toutes seules. Quand il y a des trucs vraiment trop lourds, hein, c'est bien d'être peut-être plusieurs à le mentionner.
Pour changer ou pour faire évoluer les conditions des femmes, nous avons entendu des formes et des thématiques diverses. Dans ces témoignages, des propositions comme la pédagogie ou l'engagement permettraient de faire bouger nos représentations. Le consentement, l'égalité des genres, l'accès à l'autonomie financière, matérielle ou sexuelle sont autant de pistes d'amélioration des conditions des femmes. Voilà, le deuxième épisode s'achève. Merci de votre écoute. Vous retrouverez tous les épisodes complets sur le site de l'association L'Ortie Toulouse. En attendant de se retrouver, continuez de cultiver votre curiosité.
Donc ça, c'était la petite capsule travaillée, fabriquée par Émilie. Est-ce que tu l'as présentée tout à l'heure, mais est-ce que tu veux ajouter là un petit mot sur les personnes que tu as interrogées ou sur les pistes de solutions qui ont été évoquées? Est-ce que toi, tu as des questions aussi pour les gens qui nous écoutent?
En fait, j'ai choisi, je l'ai dit en début de podcast, mais j'ai choisi quatre personnes, volontairement deux hommes et deux femmes d'un même âge, une quarantaine d'années, deux personnes qui vivent ici... qui sont nés là et d'autres qui sont arrivés. Je voulais faire ce comparatif-là. C'est vrai que j'ai aussi posé des questions. Donc, j'ai appris aussi à poser des questions au fur et à mesure des interviews. Donc, des fois, il y a des choses que j'aurais aimé creuser qui sont moins représentatives. Mais cet atelier-là m'a amené à travailler ça aussi. Mais voilà, je veux bien avoir des points de vue.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir ou de poser une question aussi à Émilie? Après, on peut aussi enchaîner sur d'autres formats de capsules et puis on prend un temps un peu plus long, comme ça vous pourrez croiser aussi les témoignages.
Ça fait un an et demi que j'y habite définitivement. Je viens ici depuis 1962 ou 3. Mon père avait acheté une maison à côté, à Mordagne. Et on est descendu, toute la famille est descendue de Paris petit à petit. Et on s'est établi là en 84. Après, moi, je travaille à Toulouse. Et depuis 18 ans que je suis à la retraite, j'ai transformé une grange en maison d'habitation. Et je me plais vraiment, j'ai toute ma famille, mes amis ici depuis plus de 40 ans, quoi.
Et voilà, et comment dirais-je, j'ai pas l'intention de partir, sauf les pieds devant plus tard, mais le cimetière est pas loin, quoi, voilà. Et il fait bon vivre ici, les gens sont gentils, ils sont très accueillants, ils sont très ouverts à l'étranger. Parce que « soy pas nas but aquí, me parli pas tues », ça baisse.
Est-ce que je peux nous le traduire?
Et aquí, Burfel, Pichu Village, Grand Bordel, Acacustalum Macarel.
Et donc, ce qui veut dire?
Eh bien, c'est, comment dirais-je, c'est pas joli joli, donc faut pas le traduire.
Ton prénom, s'il te plaît.
Michel.
Michel. Déjà, on va commencer par les questions autour d'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée Générale de la Maison de la Halle. Toute la vie qui est concentrée autour de la place aujourd'hui, est-ce que ça te rappelle une époque en particulier?
En particulier, non, mais ça a toujours été vivant. Nous, enfants, on jouait sous la halle. Il y avait des commerces autour.
Parce que du coup, tu es de Verdun.
Je suis natif, ouais. Et en fait, oui, ça me rappelle toutes les époques. Parce qu'en fait, donc enfant, il y avait tous les gamins qui se retrouvaient sous la halle ou sur la place. Et on s'amusait, quoi. On jouait, on faisait du skate, etc. Et puis, il y avait tous les commerçants autour, c'était assez rigolo. On passait de. Voilà, on se faisait engueuler tout le temps. Tout. Mais après, il y a eu le festival aussi. Donc, il se passait beaucoup de choses aussi sous la halle, les apéro-concerts, etc. Plus les bars qui ont ouvert avec les différents patrons. Et donc, oui, ça me rappelle. En fait, ça. Pour moi, j'ai jamais connu la halle morte, quoi. Donc, et puis maintenant, avec les nouvelles. Les nouveaux arrivants aussi, il y a toujours les enfants, voilà.
Il y a les enfants non plus, peut-être parce qu'il y a une période où il y avait plus tant de jeunes à Verfeil, non?
Oui, à une époque, l'école a fermé, donc il y a moins d'enfants. Mais oui, là, il y a beaucoup d'enfants, les nouveaux arrivants, tout ça. Mais cette halle, je l'ai toujours connue vivante, parce que même quand il ne se passait rien, les peu de personnes qu'il y avait se réunissaient dessous et traînaient un peu le soir. Voilà, mais ça a toujours été un endroit super agréable dans le village.
Fête au village, on partait à 3-4 musiciens, 10 musiciens, on partait dans les campagnes et on faisait l'aubade aux gens, on faisait la musique, les gens dansaient, on picolait, voilà. D'ailleurs, à tel point qu'à la finale, avant que tout ça se dilue, les aubades duraient plus d'une semaine. Quoi.
Et ça s'est arrêté quand?
Ça s'est arrêté il y a. Oh là 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 là, il y a une bonne dizaine d'années.
Ah oui. J'ai vu aussi des gens être super bien accueillis et finalement, une fois installés, mal accueillir les autres. Quoi. Mmh. Et ça se perpétue toujours, hein, sans parler des nouvelles personnes qui accèdent à la mairie, par exemple, aujourd'hui. Il faudrait qu'ils se rappellent qu'à une époque, ils étaient bienvenus, mais ils étaient moins réac, peut-être. Ils étaient plus jeunes, ils avaient envie de faire la fête, donc ils venaient ici, c'était l'été, pour eux, c'était un endroit super accueillant, sympa et tout. Et maintenant, ils sont installés, et il faudrait qu'ils se rappellent comment ils ont été accueillis et comment on doit accueillir les autres. Quoi. Voilà, et moi, c'est ce qui me touche un peu aujourd'hui quand. Chaque fois qu'il y a des guéguerres, des marginaux, tout ça et tout, mais à un moment donné, tout le monde est le marginal de l'autre, quoi.
C'est ça.
Donc, à un moment donné, il faut arrêter et se dire les gens sont différents, le tout c'est de vivre ensemble, et il y a des idées bonnes partout, d'un côté, de l'autre, de tous les côtés, mais il faut que les gens arrivent à vivre ensemble et puis faire le tri dans les idées plus que dans les personnes, quoi.
Du coup, voilà, c'était ma capsule. ce que j'ai voulu faire, à ce moment-là, c'était un travail de mémoire autour du village de Verfeil-sur-Seille. Et ça tombait au moment de la fête organisée pour l'Assemblée Générale de la Maison de l'Halle l'année dernière, il me semble. Et j'en ai rien fait de ces sons pris. Et arrivée Ariella avec ce projet. Donc je me suis dit que c'était un peu l'opportunité de pouvoir les utiliser. Voilà, l'idée du coup, c'était de recueillir des témoignages, des moments vécus avec des souvenirs, des morceaux de vie. Au final, ce qui est le plus ressorti, c'est les termes nouveaux, néo-ruraux, un peu la balance qu'il y a entre les anciens et les nouveaux, comment on arrive à vivre ensemble ou pas. Et donc là, on a entendu Michel et André. Michel, du coup, qui est arrivé là plus tard, André qui est arrivé plus tard, et Michel qui est natif de Verfeil. Dans l'interview entre André, dit aussi Dédé, j'étais avec Augustin qui a voulu m'appuyer sur cette interview. Et Augustin, qui lui se considère lui-même comme un néo, et bien en fait, ils se sont mis à faire une interview ping-pong. Et à se répondre mutuellement aux questions qu'on avait imaginées. Du coup, je trouvais ça super intéressant. Voilà.
Est-ce que quelqu'un veut s'emparer du micro et dire une petite chose ? Ou on continue ? On peut continuer. Allez, hop. Vous en demandez plus. Pardon.
Pascal.
Bonjour Dariane.
Depuis quand es-tu là ? Est-ce que tu es née ici ? Comment t'es arrivée ici ?
Je ne suis pas née ici, je suis arrivée en 1993 avec ma sœur. Et elle m'a dit j'ai rencontré des gens sympas qui font un festival, on va aller les aider à le préparer. Et on est arrivé, on a préparé le festival pendant 3 semaines avec eux. Et puis, il y a eu le festival. Et là, c'était tellement... C'était la lune. C'était tellement joyeux, tellement vivant, tellement tout, que... Je crois que j'avais jamais vécu ça. Une telle joie d'être ensemble, de faire ensemble, de...
De créer ensemble ?
Ouais, de recevoir ces gens.
Tu es ici, c'est un choix.
Oui. J'adore vivre à Verfeil. Je n'ai aucune autre prétention. En 30 ans, j'ai toujours participé à des choses qui se faisaient en commun. Et pour les autres, souvent, la vie associative. La nouveauté, c'est vachement de plus de gens.
Il y a beaucoup plus de gens.
Il y a des jeunes, il y a des gosses.
Il y a pas mal d'enfants, hein, je crois.
On va dans n'importe quel autre village, il ne se passe pas ça. Il y a des enfants partout.
Toi, t'es au courant de combien il y a d'enfants ?
Il y en a plus de 60, et du coup avec un regain de vitalité, et un apport, en tout cas pour moi, tous ces gens nouveaux, ce qu'ils ont apporté, c'est d'autres façons de faire, d'autres points de vue, voilà, avec 20 ou 30 ans d'écart.
Puisque c'est des jeunes, tu veux dire ?
Parce qu'ils sont plus jeunes que moi, et qu'ils viennent d'autres horizons que moi.
Ils ont d'autres connaissances ?
Ils ont d'autres connaissances, et du coup, un enrichissement de tout ce qu'on pouvait partager, de tout ce qu'on pouvait faire ensemble. En tout cas, les nouveautés pour moi, et qui sont passées surtout autour du projet de la Maison de la Halle, c'était un, la propriété commune. Moi qui ai toujours été locataire ici, on a acheté un truc en commun pour faire quelque chose avec. Et ça, c'était extrêmement nouveau. Et avec l'ambition de faire des logements confortables et pas chers. Et alors ça, moi, je croyais que pour faire des logements, il fallait être élu, il fallait être dans une collectivité. C'était les mairies qui portaient les logements. Un citoyen ne pouvait pas porter ça, surtout s'il n'était pas propriétaire. Et là, en fait, je m'aperçois que c'est possible.
Mmh. Oh, put a me looking, me looking lovely.
Put a me looking, me looking lovely.
Taki taki so taki, dis taki taki shi.
Est-ce qu'on réagit aussi sur ça? Sur toi, Dorian, est-ce que tu as envie de te présenter? Pourquoi tu as choisi cette personne? Et comment tu as fonctionné?
Moi, en fait, j'aime bien les podcasts. Et j'avais envie d'essayer d'en faire. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était d'apprendre à faire du montage son. Donc, le fait de faire les ateliers avec Ariella, bah, tout ça, on l'a vu. Donc c'est plutôt chouette. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de travailler sur la mémoire du village, sans aucune prétention et idée. Ce que j'avais plutôt pressenti comme question, c'était, il y a quelque chose qui est magique un peu à Verfeil quand on fait des manifestations. À chaque fois, ça se passe bien, c'est sympa, etc. Et en fait, j'ai commencé les interviews et c'est pas du tout ce qui en est ressorti. Donc voilà, après on a fait les montages, on a monté, coupé, etc. Ça c'est quand même chouette, on peut faire ce qu'on veut hein, quand on sait utiliser le logiciel. Et pourquoi j'ai choisi ces gens, donc là vous entendez Pascal, donc dit Paco, bah, tout simplement parce que pour moi c'était facile, parce que c'est une amie et qu'elle est quand même aussi à la base de l'existence de la Maison de la Halle. Et ensuite, j'ai choisi une autre personne que vous allez entendre bientôt, bah parce que aussi c'était facile et parce que c'est des personnes qui n'ont pas 30 ans non plus, les deux personnes que j'ai choisies, et j'avais envie d'entendre des personnes, voilà, on va dire, d'un certain âge s'exprimer sur Verfeil. Voilà, tout simplement.
Et qui avaient des profils assez différent. Est-ce que du coup on écoute la capsule avec Patrick, qui je pense est la suivante?
Bonjour Patrick.
Bonjour madame.
Ça fait combien de temps que tu es dans ce village?
Eh bien, je crois, tu vois, ça, pourtant ça fait pas si longtemps que ça, j'étais déjà un peu oublié. Je crois que ça doit être 2019. Je connaissais du monde ici. Je connaissais pas mal de personnes, enfin, des jeunes qui étaient des amis de mes enfants. Donc ça, c'était avant 4 ans, je dirais bien il y a 7-8 ans de ça. Mm-hmm. Et Rémi, mon fils aîné, est venu habiter là aussi.
Ouais.
Alors évidemment, je suis venu voir Rémi. Rémi, en plus, qui est devenu papa. Et donc, ça faisait beaucoup de raisons de venir s'installer quoi, ici. On a créé un jardin collectif. Mm-hmm. Et ça, c'est très important, surtout dans une bastide où les appartements, les maisons sont sans jardin. Et traditionnellement, le jardin est toujours à l'extérieur. Mm-hmm. Et parce que la bastide, c'était le fort de protection aussi, enfin, de ce que je voulais comprendre. Et donc, le jardin à l'extérieur, ben voilà, on a retrouvé ça, et ça, ça change complètement la vision d'habiter au cœur du village. 80 est un lieu un peu fermé, sombre, mais en fait, comme avant aussi, la vie ne se passe pas toute la journée dans une maison, donc c'est à l'extérieur, c'est au jardin, et c'est le moyen aussi de vivre une vie sociale. Peut-être que sur le plan social qui serait, parce que moi, arrivant à un certain âge, je manque d'interlocuteurs de mon âge.
Ouais.
Et peut-être si ce serait des projets à mener pour moi, ou en tout cas qui m'intéressait, c'est des interlocuteurs d'un certain âge qui ne soient pas dans l'abandon d'une vie sociale, mais qui soient encore acteurs et meneurs d'une vie sociale pour constituer, par exemple, comment gérer une maison comme ça, partagée, une location partagée entre personnes en situation comme ça, un peu ouais. Difficile, ça, par handicap, soit par vieillesse, soit par. Voilà, ça pour l'instant, je vois pas comment. J'en vois pas l'entrée.
« Donc en fait, dans ces deux capsules, vous l'aurez compris, la thématique a été le vivre ensemble, hein, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
Ok. Moi, je voulais réagir. Et là, j'aimerais bien qu'on discute un tout petit peu ensemble quand même, parce que Patrick, il pose une question qui est quelque chose aussi, même si ce n'est pas mon âge qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qui se passe en fait. Donc oui, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens entre 20 et 40, 45 ans. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à vieillir, à plus forcément avoir toute sa mobilité, toute sa force, et qu'on a quand même envie de s'impliquer, de vivre ensemble. Il pose lui frontalement la question, est-ce que ce serait possible en fait d'envisager un habitat collectif ou multigénérationnel, ou pour des personnes qui ont son âge? Est-ce que ça, franchement là j'aimerais vraiment qu'on arrive à en discuter, est-ce que c'est des questions que vous ici vous êtes déjà posées, ou en l'écoutant vous vous dites mais c'est vrai? En fait, on n'a pas réfléchi à ça à Verfeuille, ça reste un impensé un peu collectif, et pourquoi en fait? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre, ou est-ce que toi, Patrick, tu as envie de dire pourquoi tu en es arrivé à poser la question dans cette petite capsule avec Dorian?
Pourquoi j'en suis arrivé à poser cette question? Alors, je ne me souviens plus, hein, mais la question se pose toujours. Alors, parce que c'est une... C'est l'envie, même quand on est âgé, comme je le dis, d'être toujours un acteur de sa vie, d'être inscrit dans une vie sociale. Parce que peut-être le meilleur moyen de prendre soin de nous, nous tous, c'est de mener une vie sociale, parce que c'est de partager ensemble qui fait qu'on prend soin de soi et des autres. Et c'est vrai que peut-être, je ne sais pas, il n'y a pas tant de personnes âgées finalement qui sont dans cette démarche. En tout cas, c'est quelque chose à venir. Moi, je suis un enfant du baby-boom. Quoi. Je veux dire que, mais on arrive en masse. Hein, là, on est nombreux, alors ça va se faire. C'est...
J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers.
Donc, je m'appelle Claude Marty, je suis né ici, dans le hameau, il y a très longtemps déjà, mais j'ai assez peu vécu dans la région, enfin d'une manière pérenne. Je suis parti très tôt en pension dans un lycée, puis après je suis parti en banlieue parisienne, j'ai travaillé 30 ans, et je suis revenu ici depuis 25 ans.
Je suis Corinne Hartley. Et j'habite ici en France pour presque 4 ans et je viens des États-Unis. Et les dernières, avant je viens en France, j'ai habité en Hollande pour 17 ans. Alors pas mal de temps, et 8 ans en Angleterre et 5 ans sur la route.
J'ai passé une enfance très solitaire parce que sur le plateau, il y avait une vingtaine de fermes, mais très très peu d'enfants. Pourtant, c'était l'époque du baby-boom. Mais bon, dans mes copains, c'était les chiens, les brebis, etc. La vie à la ferme.
Quand tu juste conduire quelques places, tu regardes et tu dis « Waouh, j'habite ici, quoi, c'est trop belle. » Et les gens, il y a... Maintenant, dans ma vie, je ne veux pas sortir beaucoup, mais j'aime ça. Je peux regarder, je connais chaque week-end, je peux aller voir un concert, je peux aller faire un stage, je peux...
J'aime naviguer sur 100 mers et aborder sans rivage. Partout, j'ai vu des caravanes de tristesse.
Il y a plein de collectifs qui... Ça, j'ai trouvé super parce que quand il y a des gens qui allaient ensemble, tu peux faire beaucoup plus que si tu es toute seule, juste avec ton couple, de faire quelque chose. Et comme ça, nous pouvons faire des choses sans argent. Et ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est comment j'ai vécu ma vie, et de trouver la manière de vivre sans argent, sans... d'avoir une vie normale où tu dois aller chaque jour au travail pour gagner l'argent, de payer quelqu'un, de faire des choses. Et partout dans le coin, il y a des petits collectifs qui font les événements et qui font des choses pour avoir des choses. Tu peux aller avec pas beaucoup d'argent et passer une super belle journée avec ta famille ou tes amis, et ça donne une richness, une valeur dans la vie, quoi.
Ils pensent qu'ils savent, parce qu'ils ne boivent pas le vin des tavernes. Méchantes gens qui cheminent en empestant la terre. Pas du tout, j'ai vu aussi.
À l'époque, la vie sur le plateau, il y avait beaucoup de gens, il y avait une vie collective très importante, donc c'était la fête presque tout le temps, quoi. Parce qu'il y avait 20 fermes. En fait, l'agriculture, à l'époque où je suis né, en 1950, c'était pas le Moyen-Âge, mais c'était pas très loin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tracteurs, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas l'eau courante, donc c'était les conditions de vie vraiment à l'ancienne. Et les gens étaient très pauvres et obligés de s'entraider pour vivre, tout simplement. Donc tous les travaux se faisaient en collectif. Et donc, même les gens qui ne s'aimaient pas étaient ensemble pour travailler ensemble. Ça, c'est difficile à comprendre aujourd'hui, quoi. Tous les travaux, pratiquement, se faisaient en collectivité. C'est-à-dire que les moissons, les vendanges, les foins... Enfin, toutes sortes de travaux, même l'hiver, par exemple, les gens se réunissaient pour s'occuper de la récolte de maïs. Ils s'asseyaient ensemble et ils enlevaient les feuilles des épis de maïs. Et ça prenait, je ne sais pas moi, 20 soirées d'hiver. Hein. Ce n'était pas la télé. On allait faire du maïs, d'abord chez l'un, puis chez l'autre, etc., quoi. Donc les gens étaient ensemble. Ils avaient plaisir à être ensemble et puis ça... Ils parlaient, leur plaisir c'était parler et être ensemble, tout simplement.
Là où il y a du vin, ils boivent du vin. Où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche. Ce sont de bonnes gens qui vivent, travaillent, passent et rêvent. Et qui, un jour, comme les autres, repose sous la terre, repose sous la terre.
Est-ce que quelqu'un, ou Ariella, toi, est-ce que tu veux reprendre la parole sur qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce que tu connaissais ces histoires-là du plateau ? Comment t'as... Parce que toi, t'es pas née ici. Donc, comment t'as débarqué ici ?
On parle beaucoup de Verfeil, de la fête, etc. Et en fait, en écoutant Claude, qui est donc mon voisin, puisque j'habite à Ginals, j'habite pas à Verfeil, en fait, ça m'a beaucoup interpellée, ce truc d'une différence dans le temps, déjà, de comment des collectifs... existait à un moment et puis il y a quelque chose qui s'est perdu et maintenant on est obligé de reconstruire des collectifs, d'essayer de fabriquer quelque chose en groupe parce qu'en fait on a tous des vies qui nous isolent ou qui nous font fonctionner d'une autre manière et voilà, et donc ça m'intéressait beaucoup de... Enfin moi je suis allée pareil interviewer des gens par connaissance en fait, par affinité, j'ai pas choisi un type de personne, mais voilà, j'ai trouvé que en tout cas le récit de Claude me faisait prendre me faisait faire une différence dans le temps, un grand changement, et aussi géographiquement. C'est-à-dire qu'on dit Verfeil et autour, et moi qui habite à Ginals, pour moi j'habite presque à Verfeil, ou j'habite en banlieue de Verfeil, et qu'en fait, il y a 50 ans, c'était très loin, et c'était une autre vie, et j'ai l'impression que même cette présence, peut-être à partir de la présence de Colette Mani, des fêtes, etc., donc des années 70-80, et puis d'un changement de vie en général à cette époque, peut-être de la voiture, il y a quelque chose, un rapprochement qui s'est fait, géographique, mais que c'est assez récent finalement, et je trouvais ça assez surprenant, et du coup intéressant à amener là.
Ouais, parce que là, c'est sûr que vous, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est qu'à travers les récits qui sont situés dans le temps, ça interroge notre rapport au territoire et de se dire que les changements, ils ont été rapides en fait en deux ou trois générations et peu importe où on a grandi dans la ruralité, en France, en Europe même plus largement, ça se ressemble un peu. Et donc, je pense que c'est ça, c'est chouette que tu aies choisi d'interroger Claude, parce que je trouve qu'il le fait bien entendre aussi, ce truc de solitude, d'être un gamin qui a mis avec les animaux sur le plateau parce qu'il n'y avait pas tant d'enfants, et qu'en fait aussi, les fermes, même si on travaille ensemble, elles étaient dispersées, quoi. Et je sais pas, du coup, si des gens qui ont grandi, là, peut-être des gens qui auraient grandi ici, ou qui auraient des souvenirs de grands-parents qui ont grandi ici, ont envie de dire quelque chose.
Ouais. Alors moi, je viens de la montagne, moyenne montagne. En fait, là-bas, même si t'aimes pas tes voisins, à un moment donné, tu vas les aider. Et eux, ils vont faire pareil. Parce que c'est ce que dit Claude aussi, ouais, dans l'interview. Et ça fait la différence aussi. Voilà, t'es éloigné, t'es en montagne, la vie, elle est dure. Je parle toujours des années, on est en 2023, hein, et ça se passe toujours comme ça. Voilà, c'est juste moi, mon regard. Voilà, si j'aime pas mon voisin, je vais aller l'aider.
Et qu'est-ce que nous, on pourrait tirer comme ça, je rejoins ce que tu disais, Ariella, et qu'il y a une question un peu qui traverse tout ce que tu disais, toutes vos petites capsules sonores sur le vivre ensemble. Et c'est quelque chose que plein de gens qui habitent ici mettent de l'avant, bah, que ce soit dans des relations informelles, dans des associations, dans des collectifs, etc. Il y a l'idée de ce que dit aussi, j'ai oublié son prénom, mais... l'américaine, ouais, que c'est qu'elle adore ça, en fait, que ça permet de faire des choses en s'émancipant de l'argent, ce qui est quand même incroyable, de pouvoir sortir du système et de revenir à des formes d'entraide. Mais avant, ok, ça on l'admet, c'est ce que tu dis sur la montagne, c'est ce que dit Claude aussi, il n'y avait pas le choix, en fait, il n'y avait pas le choix parce que c'était tellement la merde que et personne, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas de chômage, etc. Donc de toute façon, pour manger, il fallait s'entraider, et je pense que c'était vraiment pour manger, on en était là. Et aujourd'hui, où il y a plein d'entre nous qui traversent des phases plus ou moins longue de précarité, mais on a une entraide qui est plus choisie, comment on peut s'inspirer de ça? Est-ce que c'est bien de faire aussi avec les gens qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins? Est-ce qu'on peut dépasser nos clivages politiques, nos aussi petites disputes plus sur le plan humain pour faire des choses ensemble? Est-ce que vous avez l'impression, un, qu'on arrive à faire ça à Verfeuil, et deux, est-ce qu'on peut s'inspirer un peu de ce truc-là, quoi, de... Est-ce que c'est important? Toi, Dorian, qu'est-ce que...
Ben, moi, je suis cordiale, je suis polie. Après, on serait en temps de guerre, je l'avoue.
Tu mangerais toute ta saucisse. Non, ça fait rien de mal. Tu partagerais pas.
Non, il y en a que je pense que... Il y en a que j'enfermerais avant qu'ils m'enferment. Mais voilà, je suis dans un village et j'ai choisi de vivre au sein d'un village. Et pour moi, l'entraide et le vivre ensemble et de faire attention à mon voisin, oui, c'est important, qu'il soit jeune, vieux ou d'une couleur différente. Ou... Voilà. Pour moi, oui, c'est important.
On écoute du coup la petite dernière capsule. Tada.
Personnellement, je voulais mettre en avant le fait que je fréquente différents cercles, différents collectifs, et différentes générations, en fait, ici. Et je me rends compte qu'en effet, on a beau avoir l'impression qu'on arrive tous à se côtoyer ou voire à s'entendre, même dans des lieux qui se disent ouverts, eh bien, c'est pas vraiment le cas. Et est-ce qu'il y a une solution à ça? Je sais pas. Mais en tout cas, on le voit bien au travers de nos interviews et de nos capsules, je pense. Après, voilà, à pousser plus loin, mais je pense que c'est quelque chose qui est réellement occulté par le discours de certains collectifs ou de certaines personnes.
Bonjour, pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Alors, bonjour, je m'appelle Amélie, j'habite Espinas et je suis arrivée sur le territoire il y a 7 ans. Voilà.
Tu étais où avant?
Moi, j'ai grandi en Normandie et après, j'ai vadrouillé dans beaucoup de lieux différents, dans beaucoup de lieux collectifs différents, voilà, entre Montpellier et Berlin, principalement, et après un petit peu partout dans le monde.
Bonjour, pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Voilà, moi, c'est Alexandra, j'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis née et grandie en Colombie, dans la capitale, Bogota. Actuellement, je suis chargée des productions, programmatrice culturelle dans les spectacles vivants, notamment en campagne. Maman d'un enfant et une femme racisée.
Tu habites où et depuis quand ?
Aujourd'hui, j'habite à Verfeuille-sur-Seille et je suis arrivée dans le coin depuis 2018.
Est-ce que les actions et événements en place sur le territoire te satisfont ? Pas forcément les choses auxquelles tu participes, mais plutôt dont tu vas profiter.
Alors, oui et non. Alors c'est pareil, c'est compliqué si je veux exprimer le fond de ma pensée, il faut que j'aille chercher loin. Moi je me pose beaucoup, beaucoup de questions sur les notions de respect, les notions d'inclusion, les notions de faire ensemble et d'être ensemble. Et justement, j'en reviens encore à cette notion de privilège. Et du coup, c'est vrai que je participe à beaucoup d'événements dans différents lieux qui sont encore pour moi trop soumis à un genre, à un code, à une attente. En fait, j'en suis moi-même victime dans certains lieux où on ne me sent pas adaptée. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire d'être adaptée à un lieu ou à un autre ? En fait, pourquoi chaque personne n'a pas le droit d'aller dans tous les lieux ? Et sous peine de représenter quelque chose qui est peut-être un reflet de tout ce que tout le monde a de moche et cache bien à l'intérieur de lui, pourquoi en fait c'est pas tolérable de m'avoir, d'avoir ça face à vos yeux en fait ? Pourquoi c'est mieux de dire bah non, toi et tes horreurs, vous sortez d'ici ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et en fait, c'est nous tous. En fait, et si je veux être authentique et vulnérable, en fait, c'est à moi que ça appartient. Le moment où je mets les autres en danger, bien sûr, c'est autre chose, en fait. Mais mes casseroles, mes souffrances, elles ont droit aussi de s'exprimer sur la place publique, en fait. Et trop souvent, là, j'ai l'impression de témoigner de rejet de ça. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans l'accueil et dans la bienveillance et dans le... Merde, j'ai perdu le mot. Dans l'inclusif, quoi.
Du coup, est-ce que tu trouves que les collectifs du territoire font preuve d'ouverture face aux propositions extérieures ? Aux nouvelles propositions ?
Preuve d'ouverture ? Non. Non, sincèrement, non. Alors, parfois. S'il y a un contexte qui puisse évoquer une sorte de champ de sécurité. Pour se procurer ça, il faut juste en discuter. Mais parfois, il n'y a même pas l'espace pour en discuter. C'est juste confrontation, 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 confrontation. Et du coup, je pense que non, il y a plein de choses collectives qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à avoir un esprit d'ouverture. Il y a une méfiance profonde dans ces territoires. J'en ai... autant pour un certain nombre de gens, un certain nombre de citoyens vis-à-vis des institutions, comme des institutions vis-à-vis des citoyens, autant entre différentes structures juridiques, donc ça peut être aussi des associations ou des entreprises, et entre autres citoyens. Il y a beaucoup de méfiance de ce qui c'est, pourquoi il vient, de où il vient, à faire des amalgames très vite. Voilà. Je pense que non, c'est pas. Ouverture, c'est pas la caractéristique principale de. Entre groupes, entre collectifs. Et après, en fonction du collectif, il y a plus ou moins des brèches d'ouverture. Clairement, tout projet humain, tout collectif, toute association. Association, je la vois, c'est avant tout des humains qui s'associent. Voilà, c'est surtout ça, une association pour moi. Toute association, elle s'est faite parce qu'il y a un système de valeurs qui est partagé. Et on les protège, on en prend soin. Et du coup, je pense que c'est normal qu'on se donne des critères pour que les gens puissent rentrer ou sortir. Pour moi, c'est plus fermé quand ces critères, ils n'ont même pas nommé. Parce que du coup, ça repose sur un truc un peu sombre, machin.
Mais plus c'est nommé, plus il y a un truc où tu sais comment tu rentres et comment tu sors, tu peux faire les choix en tant que quelqu'un de l'extérieur, de dire soit je rentre, soit je rentre pas.
Du coup, voilà, j'ai interviewé deux femmes, pour le coup, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les collectifs qu'il y a autour de chez nous, c'est beaucoup de femmes qui mènent les projets. Qui m'ont toutes les deux parlé d'investissement personnel, des rapports sociaux aussi, qui jouent vachement dans les collectifs, mais aussi des problématiques récurrentes. Et j'ai essayé d'aller chercher le pourquoi ces problématiques récurrentes, chose que j'ai pas forcément réussi à trouver, mais c'est pas grave, on a quand même de la matière assez intéressante. Et je me suis rendu compte aussi que pour deux collectifs qui prônent des valeurs identiques avec des objectifs communs, les manières de faire étaient totalement différentes, mais l'objectif, le but recherché était le même. Et c'est souvent des collectifs qui ne s'entendent pas entre eux, qui n'arrivent pas à se lier. Et voilà, du coup, je pense que ça a mis en avant les pourquoi, en partie. Pas totalement, mais en partie, du moins. Voilà.
Donc on termine sur une grosse question, et c'est bien de voir l'envers du décor. Et je pense qu'il y a les deux... Et en tout cas, je pense qu'on est beaucoup identifié qu'il y a les deux. Il y a effectivement ce qui a été mis dans l'avant dans plein d'autres capsules, de l'entraide, de l'ouverture quand même, et le fait que c'est un village, contrairement à plein d'autres villages. Il n'est pas spécifique et unique, mais où il y a eu quand même eu du brassage, et ce brassage, il n'a pas 10 ans. Ça fait, dans les histoires récoltées, là, on ne le dit pas, mais depuis, je ne sais pas, il y avait des résistants espagnols qui sont venus ici, dans les hameaux alentours. Donc il y a toujours eu... des gens différents, et en même temps, bah forcément, vu que ça brasse plein de personnes différentes, et comme simplement on est tous humains, et bah ça cogne, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à prendre décision, et ça, c'est sûr que c'est des questions qui nous traversent tous et qui nous font du mal, quoi, à plein d'endroits hyper intimes, et à plein d'endroits aussi de manière politique. Je pense que c'est quand même aussi un village où, même si c'est timide, que ce soit toi, Eline, à travers ton enquête, que ce soit à travers des groupes de discussion un peu plus formels, ou les échanges qu'on a entre voisins, voisines, c'est quand même des questions qu'on se pose. Comment dépasser ça ? Après, c'est pas ce soir en quelques minutes qu'on va trouver des solutions, mais je trouve ça chouette de terminer sur ça et de se dire que bah, y aura une saison 2. C'était forcément de ces capsules sonores. D'ailleurs, je vais passer la parole à Ariella pour présenter peut-être la suite de ce projet-là. Si vous avez envie de vous emparer de vrais micros, de dictaphones, de téléphones, et d'aller interroger les gens autour de vous, quoi, ou de vous-même prendre la parole, il y a l'espace pour ça.
Ben, je peux, ouais, en tout cas rebondir sur ce que disait Eline. On n'a pas les solutions. C'est une enquête. Une enquête, pour moi, c'est quelque chose qui est toujours très long. Et ce qu'on fait à l'Ortie, donc qui est l'association avec laquelle je porte ce projet-là, c'est de prendre le temps d'enquêter, et que ce soit les personnes qui sont prises dans des situations qui le fassent, et que voilà, que ça c'était une première étape. On avait envie de faire écouter des premiers sons et éventuellement de faire réagir les personnes qui écoutent, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais pour dire que l'idée, c'est bien de continuer à se poser des questions ensemble et à aller creuser petit à petit. En faisant de la radio, parce que je pense que c'est un outil qui s'y prête beaucoup, qui est pas juste pour dire, mais qui est aussi pour échanger, pour s'écouter, et puis aller continuer à poser d'autres questions, et puis se réécouter, et puis se reposer des questions, et que voilà, et que avec les personnes que ça intéresse, en tout cas moi j'ai bien envie de continuer, et je sais que je connais déjà quelques personnes que ça intéresse, et que toutes les personnes sont bienvenues pour continuer à mener cette enquête ensemble sur les sujets qui nous branchent. Ah, et merci. Et merci beaucoup à Audrey d'avoir animé ce plateau. Merci beaucoup à Rémi d'avoir géré toute la technique, et à la Maison de l'Halle de nous avoir accueillis. Et voilà, et on vous souhaite un bon concert. Bonne soirée. Comme 4, plus fort comme 10,
C'était Moissonner la campagne, une enquête collective et sonore, dans le cadre des archives du temps présent, portée par l'association L'Ortie.
Avec le soutien de la DRAC Occitanie, du conseil départemental de la Haute-Garonne et de la maison de la Halle de Verfeil-sur-Seille.
Les musiques sont de Didier Brassac, Ethiopix, Fraise Lucas, Colette Mani et Tom Zé.
Retrouvez nos archives sur associationlortie.wordpress.com.
On n'est pas mouchard, on va le dimanche avec l'isou blanche dîner chez Richard.